Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Ludwig Wittgenstein, un philosophe dans la guerre. Né en Autriche en 1889 dans une prestigieuse famille viennoise, riche et cultivée, Ludwig Wittgenstein connaîtra en 1921 la célébrité avec son premier livre, le Tractatus Logico-Philosophicus, une œuvre complexe et radicale, devenue aujourd'hui incontournable dans le champ de la philosophie. Mais le jeune surdoué en quête de vérité, doté d'une capacité d'abstraction hors du commun, même ses maîtres avaient du mal à le suivre, n'est pas du genre à faire carrière et à briguer les médailles académiques. Toute sa vie, cet éternel insatisfait ne sera jamais là où on l'attend. En 1914, Wittgenstein s'engage comme simple soldat. À la mort de son père, il distribue autour de lui son héritage colossal. Lorsqu'il peut prétendre à la gloire, ce grand angoissé préfère vivre en ermite au fond d'un fjord en Norvège ou faire l'école à des enfants de paysans autrichiens. Et en 1941, lorsque les bombes allemandes pleuvent sur l'Angleterre, Ludwig Wittgenstein, misanthrope mais généreux parfois, abandonne Cambridge pour devenir garçon de salle dans l'enfer d'un hôpital londonien. C'est à cette époque aussi que Wittgenstein, parti se reposer au Pays de Galles, vivra une expérience unique auprès de la famille Clement.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Pierre Cassou-Nogues, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Alors ce soir, nous allons nous prêter un exercice un peu périlleux, parler d'un philosophe par le prisme de la fiction. Je ne sais pas comment l'aurait pris Ludwig Wittgenstein, vous avez une idée?
Je pense que les fictions étaient très importantes pour Wittgenstein. Lui-même en lisait beaucoup, apparemment
oui, vrai,
plus
oui.
que des livres de philosophie, beaucoup de
polars. Il allait voir des westerns de
exactement.
Cinéma.
Et ses écrits sont ponctués de micro-fictions. Et donc, pour lui, la fiction est tout à fait importante.
Est-ce que l'on peut considérer Ludwig Wittgenstein comme un des plus importants philosophes du XXe siècle?
Ah oui, certainement. Pas seulement du XXe siècle. Des philosophes les plus importants de l'histoire de la philosophie pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, son œuvre traverse tous les champs de la philosophie de façon inégale et avec parfois des silences, et en particulier sur l'éthique, c'est un silence qui est très important, mais autrement la philosophie des mathématiques, la métaphysique. Dans son œuvre, il a aussi un style qui est très reconnaissable, très particulier, énigmatique et d'une certaine façon, énigmatique par le rôle des fictions, on pourrait comparer au style de Descartes, un peu de façon par opposition, mais donc un style très particulier. Et enfin, une grande thèse qui est que, s'il faut résumer la philosophie de Wittgenstein en deux phrases, c'est le fait que les grands problèmes de la philosophie ne sont en fait pas des problèmes. Ce sont des faux problèmes qui tiennent à un mauvais usage du langage et qu'en étudiant, justement, avec des modifications par la fiction, comment le langage fonctionne, on va pouvoir défaire les problèmes de la philosophie et donc réduire à néant la philosophie.
Alors, Ludwig Wittgenstein est né, je l'ai dit, à Vienne en 1889. Il mourra en 1951. Ses derniers mots furent pour dire qu'il avait eu une vie merveilleuse. C'est assez étonnant parce que, bon, sûrement il était sincère, hein, mais il était très doué. Il était né dans une famille où tout semblait possible, une famille cultivée, extrêmement riche. Mais en réalité, sa vie était marquée par de grandes souffrances à la fois psychique, morale.
Il traverse les événements tragiques du XXe siècle,
oui, aussi,
si on veut.
Oui, oui. Les guerres,
voilà,
il participe à la première
guerre mondiale comme soldat, et donc dans des conditions très difficiles. Donc il vient d'une très grande famille de Vienne, mais une famille juive, donc mais qui subit le nazisme.
Et une famille marquée par des fortes névroses aussi,
oui, effectivement,
des suicides.
Ses frères se suicident. Bon. Et puis, il y a une souffrance psychique qui est constamment là, qui est là même avant la guerre de 14-18 et qui restera là. Et une sorte, vous l'avez rappelé, de misanthropie. Et donc, c'est effectivement quelqu'un qui a beaucoup souffert, manifestement, qui le note en plus dans ses carnets. Et ses derniers mots sont effectivement tout à fait énigmatiques. Et cette souffrance, elle est aussi lié à la recherche d'une sorte de sincérité ou d'authenticité.
Vérité. Fait...
Oui, voilà. Et peut-être justement que on peut, ça serait quelque chose d'optimisme, et peut-être que dans ces derniers instants, il réalise que il a été honnête dans cette recherche de la sincérité, peut-être.
Oui, il a vécu aussi la chute de son pays, l'Empire austro-hongrois, la psychanalyse, l'émergence, le nazisme, vous l'avez dit, et puis dans les années 30, il a été attiré par le communisme, et on le découvrira plus tard sur une photo de classe, quand il était enfant, il aurait eu comme camarade d'école un certain Adolf Hitler, un événement, peut-être un non-événement, on en reparlera tout à l'heure, si vous le voulez bien, Pierre Cassou-Noguès. Tout de suite, Ludwig Wittgenstein, un philosophe dans la guerre, un texte de Xavier Mommé Jean, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Juliette Eman.
Wittgenstein, voici notre train, direction Swansea. Bien content de rentrer chez moi.
Ravi pour vous, Jules.
Quel enthousiasme. Enfin, cher ami, qu'y a-t-il ?
Vous le savez très bien. En quittant Londres, j'ai l'impression d'abandonner tous les patients de l'hôpital.
Allons, ça fait 3 ans que vous y travaillez, bon sang, vous êtes épuisé. Il était temps que vous consentiez enfin à prendre un congé.
Ah, par pitié, arrêtez de vous comporter en babysitter. Mais vous avez raison. Je vais essayer de dormir un peu. Réveillez-moi quand nous serons arrivés.
Je ne manquerai pas.
Les bombes tombent sur la capitale pratiquement chaque nuit. Un véritable déluge qui frappe hommes, femmes et enfants. Nous n'avons pas assez de lits, de médicaments. Les chirurgiens font ce qu'ils peuvent. J'ai essayé d'aider de toutes mes forces, de me racheter pour n'avoir rien vu venir quand j'étais adolescent, lorsque j'ai croisé Adolf Hitler.
Un mauvais rêve.
Un fantôme du passé.
Londres, mars 1944. Ludwig Wittgenstein et son ami Rush Rees ont pris le train en gare Victoria. À 55 ans, Wittgenstein est considéré comme le plus grand philosophe de son époque. Spécialiste de la logique et des mathématiques, il enseigne au Trinity College de Cambridge. Rush Rees, un Américain de 39 ans, a suivi ses cours avant de devenir professeur de philosophie à Swansea, une petite ville du Pays de Galles en bord de mer. Mais Wittgenstein est aussi un intellectuel engagé. En 1941, cet homme au caractère changeant, sévère ou chaleureux, souvent mélancolique, a quitté l'université afin de participer à l'effort de guerre en servant comme simple homme à tout faire dans un hôpital londonien. Rees a fini par le convaincre de passer quelque temps à Swansea. Il doit loger chez la famille Clement.
Barbara, t'as vérifié les verres ?
Oui, ils sont tous propres.
Tiens. Mais dis donc, le couteau, tu le mets de quel côté ?
Ah oui, c'est du côté droit. Je suis trompée.
Voilà.
Mary ?
Oh, papa.
Joanne, Barbara, je suis rentré.
Bonjour.
Bonjour. Tout est prêt pour accueillir notre nouveau locataire ?
Oui, Albert. Il n'est pas avec toi ?
L'un de ses amis le déposera en taxi. Mais il devrait pas tarder. Mais avant, je souhaiterais aborder un ou deux points.
C'est vrai, papa, que Mr. Wittgenstein est célèbre ?
Oui, Joanne. Et c'est ce dont j'aimerais parler. Le professeur Ludwig Wittgenstein ne veut pas attirer l'attention. Dans son télégramme, il m'a bien précisé vouloir séjourner incognito. Il nous arrive de Londres, passablement épuisé.
Rien de mieux que le bon air marin pour le requinquer.
En effet, mais rappelez-vous bien, Pour vous et pour tous les habitants de Swansea, il est simplement Mr. Wittgenstein, employé du Guy's Hospital, en séjour de convalescence.
Hein? Le voilà.
Mr. Wittgenstein, soyez le bienvenu.
Je vous remercie pour votre hospitalité.
Un sac à dos d'alpiniste et une petite valise en cuir. Voilà ce qui s'appelle voyager léger. Je vais les monter dans votre chambre.
Non, merci, je n'y tiens pas.
Ah. Eh bien, laissez-moi vous présenter mon épouse.
Mrs. Clement.
Enchantée.
Et nos filles, Joan et Barbara.
Bonjour.
Joan prépare un examen pour obtenir une bourse afin de poursuivre ses études. Mais elle préfère lire des romans d'aventure plutôt que de progresser en mathématiques.
Papa, s'il te plaît.
Puisque vous êtes professeur, peut-être que vous pourriez aider ma sœur.
Barbara.
Mr. Clement, avez-vous compris mon télégramme? Qu'est-ce qui vous a échappé dans la phrase « Je souhaite séjourner incognito » ?
Vous me voyez sincèrement confus. La vraie.
Et si nous passions à table ?
Vous verrez, notre petite ville est bien tranquille. Surtout depuis que la Luftwaffe a décidé d'ignorer la côte pour bombarder Londres. Mais cela, hélas, vous le savez.
Les Londoniens sont admirables. Chaque matin, le facteur continue de lever le courrier dans les ruines. Et les commerces restent ouverts, même si leurs vitrines sont brisées.
La famille royale a déclaré qu'il n'y a plus de civils. Nous sommes tous engagés sur le même front.
Saviez-vous que Barbara Cartland dirige les auxiliaires féminines de l'armée ?
Voyez-vous cela ? Sinon, que puis-je visiter par ici ?
Pas grand-chose. Nous avions un château construit par les Normands, d'abord en bois, puis en pierre, mais Cromwell l'a détruit en 1647 pour que les royalistes n'y trouvent pas refuge.
Si l'on veut construire un mur de pierre, inutile de connaître l'origine du mot pierre.
Si vous le dites.
Tenez, une chose qui pourrait vous intéresser. La première école gratuite d'Angleterre a été fondée en 1682, ici même, à Swansea.
J'ai écrit un dictionnaire pour les enfants alors que j'étais instituteur en Autriche.
Y a-t-il un sujet que vous aimez aborder, à part vous ?
Joan.
Non mais c'est vrai, papa et toi faites tout pour lui être agréable, et Mr. Wittgenstein ne cesse de vous rabaisser. On dirait qu'il met un point d'honneur à se faire détester.
Votre fille a raison. J'ai bien peur de n'être qu'un affreux raseur pour mes hôtes. C'est vrai que j'agace les gens. Probablement parce que j'attends beaucoup d'eux. J'attends qu'ils soient sincères et sans défaut. J'espère tellement des relations humaines que je finis souvent seul. Mon ami Francis Skinner l'avait compris. Il ne me jugeait pas. Et j'appréciais son naturel et sa franchise. Cher Francis, si gai et amical, disparu prématurément. Tu me manques tellement.
À son arrivée à Cambridge en 1930, Francis Skinner avait fait l'unanimité. Tout le monde reconnaissait son talent pour les mathématiques et appréciait son caractère agréable. En 1932, il entamait une amitié amoureuse avec Wittgenstein, que lui seul pouvait appeler Ludwig. Les deux hommes apprenaient le russe en vue de se rendre en Union soviétique. Francis Skinner est mort à 29 ans de la polio, à l'hôpital, durant un bombardement allemand sur Cambridge. L'université de Cambridge compte d'autres sympathisants de la doctrine communiste, principalement à Trinity College, où enseigne Wittgenstein. Après-guerre, cinq étudiants de Trinity seront identifiés comme étant des espions à la solde de Moscou. Wittgenstein était lié à trois d'entre eux, Anthony Blunt, Kim Philby et Guy Burgess, sans pour autant partager leur engagement.
Wittgenstein ?
Bonjour.
Que faisiez-vous au commissariat de police ?
Il a fallu que je m'y enregistre parce que mon nom sonne trop allemand.
On a vrai de l'apprendre. Si les gens connaissaient le travail que vous avez effectué à l'hôpital...
Et vous n'en direz rien.
Au-delà de votre nom, je crains qu'une partie de la population voit d'un mauvais œil les universitaires. Du moins ceux qui ne se sont pas engagés dans l'armée. Sans compter qu'on les suspecte d'être communistes.
Entre nous, c'est assez vrai, au moins pour Cambridge, qui semble être un centre de recrutement du parti.
Quelle hypocrisie. Tout le monde est bien content de pouvoir compter sur Staline. Sans lui et son peuple, Hitler aurait déjà envahi l'Europe et les îles britanniques. On y parlerait allemand. Et je n'aurais pas besoin d'aller pointer au commissariat.
Allons, cher ami, n'exagérez pas. Mais dites-moi, seriez-vous communiste ?
Bonne journée, Louise.
Bonne journée.
Merci, Joan.
Puis-je vous poser une question ?
Vous venez de le faire.
Une autre ? Comment se fait-il que vous ayez quitté l'université pour aller travailler dans un hôpital à Londres ? Mais peut-être suis-je trop indiscrète ?
Peut-être l'êtes-vous, en effet.
Je vous prie de m'excuser.
Aucune importance. Et puis, j'imagine que votre question est légitime. Voyez-vous, je suis né 6 jours après Adolf Hitler. Nous sommes donc de la même génération, et qui plus est, tous les deux autrichiens. Le 12 mars 1938, le Führer a annexé l'Autriche. Non seulement mes compatriotes ont laissé faire, mais ils ont accueilli la nouvelle en faisant le salut nazi. Je suis devenu un citoyen du Reich. Et c'est quelque chose qui m'est insupportable.
Vous vous sentez responsable ?
Tout le monde l'est. Disons que j'aurais dû réagir il y a bien des années. Mais je suppose qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Personne ne vous obligeait à travailler sous les bombes. C'est une décision qui vous honore.
C'est surtout une affaire qui ne regarde que moi et Adolf Hitler. Je pense que nous avons fait le tour de la question.
Bien, je vais vous laisser. Avez-vous besoin d'autre chose ?
En fait, c'est peut-être moi qui puis vous aider. Jeune fille, j'apprécie votre franchise. C'est pourquoi j'aimerais vous préparer votre examen de mathématiques. Qu'en dites-vous ?
Ce serait avec grand plaisir, professeur Wittgenstein. Merci.
Dans ce cas, je vous propose de nous y mettre dès demain.
Cambridge, Wittgenstein passe pour un professeur excentrique. Il donne cours à une dizaine d'étudiants dans son appartement presque entièrement vide. Pour tout ameublement, on n'y trouve qu'un lit, une table et une chaise, aucune décoration au mur. Plus étonnant est le perroquet dans sa cage, pendu au plafond du salon, et les piles de romans policiers entassées ici et là. Wittgenstein parle sans notes en arpentant la pièce et bombarde ses élèves de questions.
À quoi bon dicter un cours qui sera appris par cœur ? Lorsque mes étudiants sont confrontés à un problème, je les guide vers la solution. Ils doivent réfléchir par eux-mêmes. Je veux qu'ils rentrent chez eux avec quelque chose, pas dans leurs mains, mais dans leur tête.
Pour apprendre les mathématiques, il suffit d'en faire. Et c'est comme apprendre à parler. L'enfant acquiert le langage parce qu'il parle. Non parce qu'on lui enseigne les règles de la grammaire ou l'art de conjuguer.
Oui, mais tout de même, je ne comprends rien à tous ces petits x et petits y.
Parce que vous n'y voyez que des symboles mathématiques. Ce n'est pas ainsi qu'il faut les aborder. Prêtez-leur une vie. Imaginez que ce sont des personnes. Petit x et petit y se connaissent-ils ? Pourquoi petit x prend-il le train de 8h14 pour Canterbury ? Qu'est-ce qui pousse petit Y à remplir un tonneau qui fuit ou à acheter trop de rouleaux de papier peint afin de tapisser sa chambre ? Allons, essayez.
Vos petits I et petits Y ont une vie bien tranquille. C'est moins simple pour les vrais gens.
Que voulez-vous dire ?
Je ne pouvais pas m'empêcher de vous écouter en faisant la vaisselle.
Oh, la vaisselle ! Eh bien, mettez tout cela dans la baignoire avec beaucoup d'eau et de savon. C'est ainsi que je fais. Qu'est-ce qui est moins simple avec les gens ?
Avant la guerre, Swansea connaissait une vie paisible. Et puis, la bataille d'Angleterre a commencé ici même, avec ses combats aériens au-dessus de nos têtes. Après, il y a eu les bombardements de l'aviation allemande, et maintenant, l'armée américaine qui envisage de s'installer par ici. Mais ne vous méprenez pas, je suis rassurée d'accueillir nos alliés.
Je vous comprends. Vivre dans le tourment est une chose compliquée. Le monde des gens heureux n'est pas le même que celui des gens malheureux.
Voilà, j'ai fini.
Voyons vos résultats.
Tenez.
Eh bien, c'est pas si mal pour aujourd'hui.
Grâce à vous, professeur. Bien, Joanne. Puisque tu as fini, tu peux aller te promener.
Professeur, c'est l'occasion de découvrir nos belles plages. Vous m'accompagnez ?
Avec plaisir, jeune fille.
En hiver, les hérissons cherchent à se serrer les uns contre les autres pour avoir moins froid. Mais ils se blessent avec leurs piquants. Alors ils se rapprochent et s'éloignent, jusqu'à trouver la bonne distance. J'apprécie les Clement, particulièrement Joanne. Pour cohabiter à bonne distance, je ferai attention à mes piquants.
Le vent souffle. Un vrai temps pour cerf-volant.
Vous y connaissez aussi en cerf-volant ?
J'ai commencé ma carrière en les faisant voler pour le service météorologique de Manchester.
Vous travaillez à la météo ? C'est assez loin de la philosophie, non ?
Quand j'avais 10 ans, j'ai construit une petite machine à coudre qui fonctionnait. Je voulais faire des études techniques. La philosophie est arrivée plus tard.
Regardez les mouettes, comme elles sont insouciantes. Difficile de croire que de l'autre côté de la Manche, une menace est tout le temps pointée vers nous.
Parfois, on est obligé d'apprendre à vivre tous les jours avec la menace. C'était mon cas à l'école, j'y ai beaucoup souffert.
Pourquoi ?
J'étais entouré d'élèves grossiers, méchants et violents qui criaient « sale juif » à la récréation. En réponse, je m'obstinais à les vouvoyer. Nous n'étions que deux dans l'école à vouvoyer nos camarades. L'autre était Adolf Hitler.
Vous étiez dans la même école qu'Hitler ?
Oui. Je ne vous ai pas tout dit hier soir, nous venions à peine de faire connaissance.
Vous l'avez connu ?
Pas vraiment. Nous n'avons fréquenté l'école ensemble qu'une seule année, de 1904 à 1905. J'avais un an d'avance et lui un an de retard. Mais l'on apparaît tous les deux sur une photographie de classe.
Et vous n'avez aucun souvenir de lui ?
Rien de précis. Parfois, on oublie ce que l'on sait.
Enfin, j'aurais croisé Hitler à l'école, je m'en souviendrai.
Vraiment ? Et qu'est-ce qui vous reviendra en mémoire ? À l'époque, nous n'étions que deux garçons parmi 300 autres.
Dans Mein Kampf, Hitler revient sur ses années de jeunesse. À l'école, écrit-il, je fis la connaissance d'un jeune juif avec lequel nous nous tenions tous sur nos gardes. Toutefois, rien ne dit qu'il parle de Ludwig Wittgenstein.
Quel dommage que la machine à remonter le temps de Mr. Wells n'existe pas. Si c'était le cas, je retournerais en arrière pour le tuer.
Par pitié, Joanne, envisager n'importe quoi n'a jamais été une solution.
C'est vrai. Comme le dit mon père, une clé n'ouvre pas toutes les portes.
Vous apprenez vite. Chacun de nous a de l'influence sur le monde. Donc, si l'on trouve le monde malheureux, il faut essayer de le changer. Et pour cela, on doit commencer par se changer soi-même. C'est pourquoi vous devez absolument réussir cet examen et obtenir la bourse afin de poursuivre vos études.
En attendant, dépêchons-nous de rentrer. C'est bientôt l'heure du thé.
Oh ! Eh bien, Joanne, tu en as mis du temps.
Désolée, Mrs. Clement, c'est entièrement ma faute.
Oh, ne lui cherchez pas d'excuses, professeur. Joanne est toujours en train de rêvasser, le nez en l'air, ou elle est plongée dans un roman de Walter Scott au lieu de faire ses devoirs. D'ailleurs, devine qui est venu nous rendre une petite visite.
Bonjour, Mr. Stanfield.
Bonjour, Joanne.
Mr. Stanfield est le directeur de l'école. Joanne est l'une de ses élèves.
Enchantée, Mister.
Ludwig Wittgenstein.
Ludwig Wittgenstein, de la prestigieuse famille.
Pour ne rien vous cacher. Je m'étonne d'ailleurs qu'un crieur public n'ait pas averti de ma présence en aboyant dans les rues de Swansea.
Je vais préparer le thé, je vous en prie, installez-vous.
Je t'accompagne.
Professeur, vous rencontrer est un privilège.
Allez dire cela à mes collègues de Cambridge.
Heureusement, vous êtes en Angleterre, loin des malheurs que traverse l'Autriche.
Une part de ma famille y est encore. Je suis inquiet pour eux.
Oui, bien sûr. Votre famille est célèbre bien au-delà de Vienne. Les Wittgenstein, protecteurs des arts. Moi-même, je m'intéresse au théâtre et à la musique. Oh, un simple amateur.
Pas possible.
On dit que les Wittgenstein avaient engagé Félix Mendelssohn et Johannes Brahms comme précepteurs de musique.
Du temps de mon grand-père, en effet. J'ai eu avec mes frères et sœurs jusqu'à 26 tuteurs privés.
Oh, remarquable. Tout à fait remarquable.
Pas tant que cela. Nos parents ne s'intéressaient guère à leurs enfants. Mon père attendait uniquement de nous qu'on lui obéisse en tout point. Ma mère, en épouse obéissante, approuvait.
Allons, Je suis sûr que vous noircissez le tableau.
Trois de mes frères se sont suicidés. J'imagine que cela vous convaincra.
Seigneur.
Professeur, je suis désolée.
Le thé.
Johan, aide-moi à faire le service. Tout de suite.
Les Clement sont des gens simples, honnêtes. Ils s'aiment et n'hésitent pas à le montrer. La toute-puissante famille Wittgenstein voulait le bonheur absolu, mais ne l'a pas obtenu. Mieux vaut se satisfaire des petits bonheurs de la vie. C'est comme pour les raisins secs et le gâteau. Même si les raisins secs sont ce qu'il y a de meilleur dans un gâteau, un sac de raisins secs n'est pas meilleur qu'un gâteau.
Directeur Stanfield, encore merci d'être passé.
Tout le plaisir est pour moi.
Oh, chère Mrs. Clement, qu'en est-il des préparatifs de la kermesse?
Les stands sont prêts. Toutes les familles du quartier ont offert des lots.
Voilà qui renforcera les liens de notre communauté et nous permettra de penser à autre chose que ce satané Hitler.
Il faudra plus qu'un jeu de tir à la carabine pour s'en débarrasser.
Professeur Wittgenstein, nous ferez-vous l'honneur d'y assister?
Je ne manquerai cela pour rien au monde.
Au revoir, professeur.
Au revoir, Mr. Stanfield.
Au revoir, Mrs. Clement.
Au revoir.
Je vois que Barbara vous aide.
Tu veux que je te prête mon petit arrosoir?
Décidément, ce que l'on dit est vrai. Il y a un jardinier qui sommeille en chaque anglais.
Ma foi, je ne prétendrai pas le contraire. Mais il faut parfois s'adapter aux circonstances. Avant, là, sur votre droite, il y avait des parterres fleuries. Mary les appréciait beaucoup. Mais avec les restrictions alimentaires, il a fallu que je les remplace par un potager.
Parfois, les événements nous obligent à nous adapter. Vous avez combattu durant la Première Guerre?
Un instant, professeur. Barbara, va donc voir si maman a besoin de toi.
J'y vais.
Oui, j'ai fait la guerre. Et vous?
Je me suis engagé dans l'armée autrichienne en tant qu'artilleur volontaire.
Combien de temps de service?
4 ans.
Moi aussi. 4 longues années.
Ah, c'est vrai. Une journée semblait durer une vie entière. Où avez-vous servi?
En France. Et vous?
Sur le front russe, puis sur le front italien.
Vous avez été blessé?
2 fois. À la jambe et au visage.
Pas moi. J'ai eu cette chance.
Je m'estime également chanceux. Mon frère Kurt est mort dans les derniers jours de la guerre. Et mon frère Paul, le pianiste, a perdu un bras.
Dieu du ciel.
Parfois, j'ai du mal à trouver l'humanité chez l'homme.
Maman m'a dit de ne pas rester dans ses pattes.
Dans ce cas, continue d'arroser.
Oui.
L'humanité est là, professeur, dans les jeunes générations. Elles incarnent le futur et nous aident à espérer.
En mai 1944, les Britanniques défendent leur nation et sont engagés sur tous les fronts. Ils s'opposent à Hitler en Méditerranée, en Afrique du Nord, et luttent également contre les Japonais en Birmanie. Plusieurs jeunes collègues de Wittgenstein, et surtout ses étudiants, ont rejoint les différents corps d'armée. Nombre d'entre eux ne reviendront pas à Cambridge.
Professeur, toute la famille est rassemblée. Venez vite.
J'arrive.
La famille. Ma sœur Margaret et mon frère Paul vivent en Amérique. Hermine et Hélène sont restées en Autriche. En tant que juives, elles y risquent tous les jours leur vie. Margaret a essayé de leur procurer des passeports, sans succès. Quand nous retrouverons-nous? Cela arrivera-t-il un jour?
Maman, regarde, ils font des pommes d'amour.
Allons voir ça.
Et après, nous irons boire une limonade.
Bonjour.
Bonjour, Riz.
Bonjour.
Mais qui est donc cette charmante demoiselle?
Laissez-moi vous présenter Joanne Clement.
Enchantée.
Enchantée.
Durant mon séjour, je loge chez ses parents.
Grand Dieu, comme je les plains.
Je vais rejoindre ma famille. Enchantée d'avoir fait votre connaissance, Mr. Riz.
Professeur, retrouvez-nous plus tard.
À tout à l'heure.
Curieux de vous croiser une kermesse, Wittgenstein. J'ignorais que vous vous intéressiez aux pots de lait et autres vieilles chopes en étain.
Moi? Non. Mais les gens d'ici, certainement. Tous ces objets témoignent du passé. Observez l'expression sur le visage des passants. Que voyez-vous?
Rien de particulier.
Vous ne faites pas assez attention au visage, mon cher Rhys. C'est un défaut que vous devriez corriger. Les expressions traduisent le doute, la crainte, l'amour. Les objets de la brocante rappellent aux habitants de Swansea des temps parfois heureux, parfois difficiles.
Je comprends. Comme vous le dites souvent, tout est indice de quelque chose. Il suffit de détecter les signes.
Sauf que je ne les ai pas vus. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec Joanne. Elle avait du mal à admettre que je n'ai rien remarqué à l'école lorsque j'y étais avec Adolf Hitler.
Par tous les saints, ne me dites pas que vous lui en avez parlé. Arrêtez donc de vous torturer avec cette histoire.
Comment voulez-vous que j'arrête? Elle continue de me hanter.
Soit. Eh bien, parlons-en. Hitler et vous avez fréquenté le même établissement. Lorsque vous l'avez croisé, vous aviez 14 ans. Cessez donc de culpabiliser.
Parfois, j'ai l'impression que nos vies sont parallèles.
Absolument pas. Que je sache, Hitler a été renvoyé de l'école, pas vous. Il a été recalé au concours d'entrée aux Beaux-Arts, vous êtes allé à l'université.
Et si Hitler n'avait pas été renvoyé de l'école?
Et si. Vous oubliez le contexte, la situation de l'Allemagne et quantité d'autres facteurs. Adolf Hitler n'a pas changé le monde à lui seul. Très peu de gens y parviennent. Avec votre ouvrage, le Tractatus Logico-Philosophicus, vous l'avez fait.
Ah, professeur, vous se demandez où vous étiez passé. Venez donc avec votre ami vous désaltérer.
Avec plaisir.
Allons-y.
Cher Reese, quelle naïveté. Comme si un traité de logique pouvait modifier l'histoire de l'humanité. C'est Mein Kampf qui l'a fait.
En 1944, le traité de Wittgenstein n'est lu que par une poignée de spécialistes. Mein Kampf s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires uniquement pour l'Allemagne. Toutes les familles du Reich doivent le posséder. Adolf Hitler encaisse d'énormes droits d'auteur.
Il semblerait qu'à la fin mai, les services postaux de l'US Air Force vont s'installer dans notre ville. On dit que les Alliés préparent un débarquement en France. Peut-être dans le Pas-de-Calais.
Nous aurons tout le temps d'y songer. Dans l'immédiat, seul compte l'examen de Joanne.
Te sens-tu prête pour demain? J'ai l'impression que ma tête est pleine, et pourtant il me reste tellement à apprendre.
Et c'est parfaitement normal. On passe sa vie à découvrir les choses sans jamais tout savoir. Pour l'heure, cessez donc de réviser et veillez à vous détendre. Le repos fait partie intégrante d'une bonne préparation.
Joanne, viens voir mon album d'images. Si je te montre celle-ci, tu vois quoi?
Un canard.
Et si je la retourne?
Un lapin. Le bec du canard fait les oreilles du lapin. Le même dessin est tantôt un canard, tantôt un lapin.
Un canard-lapin.
Que venez-vous de dire?
Tenez, professeur. Ce n'est pas l'image qui change, mais notre façon de la regarder.
Ce n'est pas le dessin qui change, mais notre représentation. Un seul objet, identique, mais de manière parfaitement distincte de l'observer. Brillant, jeune fille. Merci, Joanne. Merci à toi, Barbara. Merci.
Oh, c'est savant. On dirait parfois de grands enfants. Bien, il est temps d'aller dormir. Allez, les filles, au lit.
Hitler et moi étions au même moment dans la même école. Elle a produit le pire et le meilleur. Un philosophe et un dictateur. Je ne pouvais rien y changer.
Le canard-lapin marque à ce point Wittgenstein qu'il l'évoque dans ses investigations philosophiques rédigées chez les Clement à Swansea. Un même événement, une même personne, peuvent être perçus de manière différente selon notre état d'esprit.
Maman, Joanne, le facteur est passé, il y a un courrier de l'école.
Joanne, ce sont les résultats de ton examen. Tiens, ouvre l'enveloppe. Maman, je préfère que tu le fasses, toi.
Comme tu veux. Voyons.
Oh, Joanne, je suis désolée.
Quoi?
Joanne a été recalée.
Impossible.
Je m'en veux terriblement. Papa va être si déçu.
Votre père ne sera pas déçu parce que jamais vous ne pourrez le décevoir. Préparez-vous à sortir. Nous allons à l'école. On va voir ce qu'on va voir.
Professeur, que comptez-vous faire?
Mrs. Clement, je ne peux croire que Joanne a échoué. Je peux même vous assurer qu'elle a réussi. Je vais exiger une vérification des résultats. Ah, nous y voilà. Directeur Stanfield.
Professeur, Mrs. Clement, il est tard, j'allais fermer l'école.
Pas avant d'avoir expliqué ceci. Là, sur le relevé des résultats.
Eh bien, j'en suis navré, mais la phrase est pourtant claire. Johan a échoué à l'examen.
On peut faire dire n'importe quoi à une phrase. Elle ne signifie rien tant qu'elle n'est pas prouvée par des faits.
Qu'attendez-vous de moi ?
Que vous vérifiez les résultats.
Douteriez-vous de mon jugement ?
J'ignore tout de votre façon de penser et il n'est pas question de vous. Directeur Stanfield, nous parlons de l'avenir de Johan. Oseriez-vous affirmer devant elle et devant sa famille que vous n'avez pas pu commettre une erreur ?
Très bien. Un instant, laissez-moi consulter les copies de l'examen. Adams, Anderson, Oden, Blake.
Par pitié, donnez-moi ça. Joan Clément. La voilà.
La partie littérature et histoire est assez réussie.
Je n'en doute pas. Voyons l'interrogation de mathématiques. Eh bien, que lui reprochez-vous ?
La réponse est incomplète.
Cet exercice ne semble pas avoir été corrigé.
Allons, c'est impossible.
Jugez par vous-même.
Je... Oh, menthe divine. Je ne l'avais pas vu.
Je déteste le laisser-aller. Le travail bâclé.
Professeur, veuillez comprendre toutes ces corrections, la fatigue et mes yeux...
Eh bien, servez-vous-en pour vérifier.
Oui, tout de suite. La démonstration est exacte. Johanna a en effet parfaitement répondu au problème.
Alors elle a réussi ?
En effet, votre fille obtient assez de points pour réussir l'examen.
Merci. Oh. Merci, directeur Stanfield.
Remerciez plutôt votre professeur.
Alors ? Sans rancune ?
De m'avoir évité de commettre une injustice ? Non, bien sûr. Et puis, tant qu'à prendre une leçon, autant que ce soit de Ludwig Wittgenstein.
Wittgenstein.
Bonjour, Riz.
Je venais justement chez vous. L'université de Swansea a reçu un courrier de Cambridge vous concernant.
Pourquoi ne pas me l'avoir adressé directement ?
Tenez. Parce que l'administration vous connaît et sait que vous n'y répondrez pas. Et puis, j'imagine qu'ainsi la démarche est davantage officielle.
Ils estiment que je me suis assez reposé et comme j'en ai fini avec mon travail à l'hôpital, pas question que je participe de nouveau à l'effort de guerre. Je dois reprendre mes cours à Trinity College.
Les alliés avancent en France. Cela fera bientôt 2 mois que Paris est libéré. Le vent semble enfin tourner.
Oui, et alors ?
La guerre sera bientôt terminée et Hitler vaincu. Pour une fois, Wittgenstein, laissez les événements décider à votre place.
Professeur, ça a été un plaisir de vous accueillir parmi nous.
Tout le plaisir a été pour moi. Je suis venu à Swansea les épaules chargées d'un fardeau qui me pesait depuis mon enfance. Vous m'avez aidé à m'en débarrasser. Et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant.
Je vous dois aussi beaucoup. Merci de m'avoir pris pour élève.
Oh, vous avez été bien plus que cela. Je vous considère comme mon apprenti.
Que comptez-vous faire ?
Retourner à Cambridge, reprendre mes cours et terminer mon manuscrit.
Le train va partir !
Chers amis, je vous souhaite tout ce qui peut vous arriver de mieux.
Et moi, de bonnes et de belles choses.
Au revoir, professeur. Pensez à nous avec amitié.
Au revoir.
Bon voyage.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Après la guerre, Ludwig Wittgenstein revient chaque été à Swansea et passe ses vacances chez les Clement.
Hitler est mort le 30 avril 1945. Il s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Mon esprit est enfin libéré. Lorsque je retourne à Swansea, j'y suis mieux que dans le reste du pays. Ici, je connais un certain nombre de gens que j'apprécie. Quand je marche dans la rue et que je suis avec Johan et Barbara, j'ai envie de sourire.
Ludwig Wittgenstein, philosophe dans la guerre de Xavier Mauméjean, avec Ludwig Wittgenstein, Laurent Natrella, Joanne Pauline Ziadé, Rush Rees, Pierre Rochefort, Mrs. Clement, Nathalie Janet, Mr. Clement, Antoine Doignon, Barbara, Zélie Chalvignac, Mr. Stanfield, Laurent Lederer, Bruitage, Sophie Bissens, prise de son montage et mixage, Bruno Mourland et Éric Villenfin, assistant à la réalisation, Pablo Valero, réalisation, Juliette Eman. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. On reprend dans quelques minutes la discussion sur Ludwig Wittgenstein avec mon invité Pierre Cassou-Noguès.
If you get blown off course and filling in the parts of your life that have disappeared, medicating, quick step reflections in the dark mirrors of our lives. Polaris, watching the embers fall off to sublime.
Polaris de Damon Albarn sur France Inter, autant n'importe l'histoire, est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Tiffany Battistel. Pierre Cassou-Noguès, Xavier Mauméjean, vous l'avez entendu, l'auteur de la fiction, qui est par ailleurs écrivain de science-fiction et de polar, a pris le parti d'imaginer un Wittgenstein tourmenté, même culpabilisé, par le fait qu'il est enfant. Il aurait eu comme camarade de classe un certain Adolf Hitler. C'est un livre, évidemment, dont vous avez entendu parler en 1998, de Kimberley Cornish, le juif de Linz, qui avait mis en évidence cette proximité. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose, en dehors de l'aspect dramatique, fictionnel, qui est intéressant, est-ce que c'est quelque chose qui peut être fondé?
Donc il y a cette photo de classe dans laquelle ils apparaissent tous les deux. Ensuite, je ne sais pas si ça a marqué Wittgenstein autant que l'entend la fiction. Après, par contre, je trouve effectivement que les écrits de Wittgenstein se prêtent à essayer d'imaginer ce qu'il y a derrière, qu'ils ont quelque chose d'énigmatique. Ce sont, Wittgenstein écrit toujours par de petites, disons des sortes d'aphorismes, enfin des tout petits paragraphes de quelques lignes qui se suivent, qui n'ont pas forcément de lien entre eux, et qui souvent donc passent par des histoires. Et donc on a envie effectivement de savoir, d'essayer d'imaginer ce qui pouvait se trouver derrière, comment il s'intégrait. C'est pour ça, je pense qu'on lit beaucoup les cours de Wittgenstein, dans lesquels ces mêmes remarques sont prises dans un unique fil, et puis on a envie effectivement d'imaginer la vie de Wittgenstein, d'imaginer dans quelles circonstances, dans quel état d'esprit, même si le terme d'état d'esprit chez Wittgenstein est très ambigu, mais disons dans quel état d'esprit, dans quelles circonstances il a pu écrire, penser, c'est paragraphé. Et donc, la fiction est intéressante pour ça.
Oui, parce que dans ses cours, bon, on a compris, Wittgenstein n'était pas un rigolo particulièrement. Enfin, c'était quelqu'un de très sérieux. Et en même temps, il avait des jeux de mots. Enfin, il travaillait beaucoup là-dessus.
Oui, les textes de Wittgenstein sont assez drôles pour des textes de philosophie. C'est pas qu'on rit aux larmes, mais il y a un certain humour. Et d'une certaine façon, disons, une certaine fantaisie. Une des grandes thèses de Wittgenstein, c'est de montrer que des choses que nous croyons nécessaires, par exemple le statut de la pensée, le fait que je connais ma pensée, je sais ce que je pense, des choses que nous croyons nécessaires sont en fait contingentes et relèvent de certaines conventions entre nous, et qu'on peut les imaginer autres. Et donc Wittgenstein imagine souvent des scènes fantaisistes dans lesquelles d'autres circonstances nous amèneraient à une toute autre conception, par exemple, de notre pensée, ou de ce que c'est qu'une machine, ou une chose, ou quelqu'un d'autre. Et donc, il y a, d'une certaine façon, il y a de la micro-science-fiction chez Wittgenstein, et c'est souvent assez drôle, et assez fantaisiste, justement. Ce ne sont pas du tout des textes ennuyeux, ou très sévères, ou très sérieux, avec une certaine conception du sérieux.
Et l'histoire du canard-lapin, donc ces deux petites filles qui trouvent un dessin et qui se rendent compte que d'un côté on peut voir un canard et de l'autre, selon le point de vue qu'on a, ce qu'on a dans la tête, on voit un lapin. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il a découvert ça, en effet, à cette occasion-là, et que ça a été un exemple de qu'il aurait pu utiliser dans ses livres?
Alors, c'est un exemple qu'il utilise beaucoup dans ses livres. Alors,
Ces recherches philosophiques.
Il y a plusieurs versions de l'histoire. Il y en a une autre qui dit qu'il y avait, je ne sais plus, dans le grenier ou dans la cave de chez ses parents, du plâtre, je crois, qui était tombé et qui dessinait un lapin et qui lui faisait peur. Mmh. Et donc, le fait de le voir comme autre chose, comme un canard, pouvait résoudre sa peur. Et c'est une idée donc qu'il voit en commun entre lui et Freud, le fait qu'on peut voir les mêmes choses différemment et leur enlever leur caractère effrayant et d'une certaine façon les transformer. Et c'est un peu la conclusion de la fiction, en fait, que Johanna semble avoir raté son examen, mais en fait, on peut voir le même événement d'une autre façon et elle a réussi son examen. Mmh. Et après, donc, cet exemple est très très important pour Wittgenstein, justement parce que il s'interroge sur qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un dessin avec deux oreilles, une petite tête, et si on voit les oreilles verticalement, en fait, on le voit comme un lapin, mais si on le tourne, on voit les deux oreilles comme le bec du canard. Et l'idée de Wittgenstein, c'est qu'en fait, il ne se passe rien dans notre esprit pendant le changement. C'est pas que je me dis, je le vois comme un canard, je le vois comme un lapin. Il se passe rien et l'objet,
c'est une évidence.
Voilà, l'objet se transforme sans que je n'y sois pour rien, semble-t-il. Mmh. Et donc c'est quelque chose de très important sur justement la façon dont les choses peuvent changer, notre rapport aux choses peuvent changer, sans que cela se passe dans une intériorité qui interpréterait de façon explicite, de façon consciente, un univers extérieur. Cet univers, il change sans que je me rende compte comment et pourquoi.
Alors dans cette fiction, on a vu aussi que Ludwig Wittgenstein, donc il part à Swansea, au Pays de Galles, donc il est garçon de salle dans un hôpital, et en même temps c'est un grand philosophe, il a été vraiment célèbre de son vivant, il part incognito, c'est quand même étonnant c'est d'être déjà célèbre comme philosophe, et en même temps il a été jardinier dans sa vie, il est parti comme jardinier, il est allé s'enfermer dans une maison au fond d'un fjord, Oxford, il a été brancardier, instituteur pour les petits enfants paysans autrichiens. Tout ça, ça signifie quoi? C'est une autre, au-delà de peut-être l'aspect un peu névrotique du personnage, est-ce que cela participe aussi d'une nouvelle manière d'envisager la philosophie?
Alors c'est tout à fait vrai hein, qu'il y a toute une série de moments dans lesquels Wittgenstein quitte l'université et la philosophie apparemment, hein, des périodes pendant lesquelles même il semble ne pas écrire, en particulier quand il est instituteur en Autriche. Il y a aussi une période où il quitte l'université, c'est la Première Guerre mondiale, hein, où comme on l'entendait...
Il a été vraiment sur le front,
voilà,
enfin, c'était très dur.
Il s'engage volontairement, en plus il n'est pas mobilisé, il s'engage volontairement, il passe 4 ans sur le front dans des conditions très très difficiles. Alors là, pendant cette période, il continue à écrire. Et alors, on pourrait mettre en rapport cette idée de finalement de ce ras-le-bol, disons, vis-à-vis de la philosophie, le fait de partir, avec cette idée dans ces textes que le but de la philosophie, c'est la fin de la philosophie. C'est-à-dire le but de la philosophie, c'est d'avoir en fait démonté tous les problèmes philosophiques. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que la pensée? Qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que c'est que les autres? De les avoir tous démontés, en montrant qu'en fait, ce ne sont pas des problèmes, que ces problèmes qui m'obsèdent, en fait, c'est une erreur de ma part, qu'il n'y a pas de problème, et que donc, on n'a plus rien à faire. Et c'est pour ça qu'on a pu dire que Wittgenstein était un anti-philosophe ou qu'il assassinait la philosophie. C'est dans cette idée qu'effectivement, on doit aller vers la fin de la philosophie et peut-être que il y a évidemment chez Wittgenstein qu'en fait la philosophie ou les problèmes philosophiques l'obsèdent tellement qu'il a besoin de les quitter et d'arrêter.
Merci beaucoup Pierre Kasounoguès, ça me donne envie de lire donc le Tractatus Logico-Philosophicus, voilà, je me dis que peut-être que j'y comprendrai un peu quelque chose. Donc de vous Pierre Kasounoguès, on peut lire Mon zombie et moi, la philosophie comme fiction, dans lequel vous consacrez 2 chapitres à Wittgenstein et la fiction, et votre dernier livre, Virusland, publié en 2020 chez Cerf. À lire également la biographie de Ray Monk de Wittgenstein, et donc j'en parlais, Wittgenstein contre Hitler, le juif de Linz, de Kimberley Corniche, et bien sûr les œuvres de Wittgenstein disponibles aux éditions Gallimard, et de Xavier Mauméjean, Kafka à Paris et La Société des Faux Visages, tous deux publiés aux éditions Alma. Voilà, Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter, podcaster cette émission ainsi que toutes celles que vous auriez manquées sur notre site franceinter.fr. Merci d'avance pour vos commentaires sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, place à la comédie. Nous partirons au XVIIIe siècle, le siècle soi-disant des Lumières et de la Raison. La marquise d'Urfé, aristocrate richissime, souhaite s'initier à l'occultisme alors à la mode. Pour cela, elle fait appel à un certain Giacomo Casanova, célèbre aventurier et séducteur vénitien qui, par appât du gain, n'hésitera pas à endosser le costume de magicien. La marquise d'Urfé, la sublime folle de Casanova, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Jean-François Zigel pour La Preuve par Z.